Maintenant, donner la parole à Peter DeWitt de la CMFE. Peut-être d'abord lui proposer de se présenter. Et puis, justement, par rapport à cette question de la transition numérique, connaître un petit peu la position de cette organisation.
Thank you very much, and it's a great pleasure to be.
Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là avec vous. Et je vois bien que je dois être très court. On m'a dit d'être très bref. Alors, je vais commencer par vous parler d'une petite chose, une petite anecdote. Je dois aller au sixième étage dans une des institutions européennes. Je rentre dans l'ascenseur et Nelly Kroes, commissaire aux télécommunications, se retrouve dans le même ascenseur que moi. Vous imaginez, j'ai 5 étages à parcourir avec elle pour lui parler des médias communautaires. Vous savez bien qu'au Parlement européen, ces ascenseurs sont ultra rapides. Ça veut dire que vous devez être super concis. Je me présente, je lui dis Peter DeWitt, ancien président du CMFE, et donc je commence à aller, elle me demande, ah, community media, les médias communautaires, c'est quoi ça? Vous imaginez, en 5 étages, vous retrouvez une définition loin d'être facile, alors que vous êtes là avec des définitions qui sont relativement larges, de l'UNESCO notamment. Je lui dis, oh, les médias communautaires, ce sont des médias qui sont non lucratifs, et je lui donne toute la définition qui sont pour les gens, par les gens, etc. Bref, on est déjà là au 3e étage, 3 étages plus haut, ça veut dire que je dois continuer à me concentrer pour être bien bref. Question suivante, ah, les médias communautaires, combien en Europe? Oups, gros problème, puisque personne ne connaît le chiffre exact. C'est également un problème de définition, mais pas question évidemment de me retrouver coincé dans ce genre-là de communautaires. Je dis environ 3200, et je lui donne un chiffre comme ça. Elle me fait « waouh ». À ce moment-là, on arrive au 5e étage, elle sort, moi aussi, et j'ai oublié de lui donner ma carte. Voilà, une occasion perdue. Au cours de la journée passée, aujourd'hui également, je me suis dit qu'il y avait peut-être une petite confusion par rapport aux médias communautaires. Et j'aimerais vous rappeler un exposé d'un de nos collègues qui a été donné il y a quelque temps en disant « Ne soyez pas exclusifs, mais plutôt soyez acteurs d'intégration ». Et au Conseil de l'Europe, dans une déclaration ministérielle, vous allez retrouver le début d'une définition. Vous avez 5 ou 6 points où il est dit que ça peut être partagé dans une plus grande ou une plus petite mesure. Donc l'idée, c'est d'intégrer et de ne pas éliminer toute une série de stations de radio qui assurent ou prestent un service local aux citoyens de cette localité. Alors, sur la politique européenne, un petit mot peut-être. Certaines présentations ont été faites hier et aujourd'hui et se réfèrent au Parlement européen ainsi qu'à la déclaration du Conseil de l'Europe. Certaines personnes semblent être déçues par la manière dont cette déclaration a été faite. Je travaille dans le domaine politique depuis plus de 30 ans, d'abord aux Pays-Bas et maintenant au niveau européen. Ce sont des processus évidemment qui sont très lents. Mais quand vous voyez toutes les références qui sont déjà faites à ces deux textes-là, je pense qu'on peut être plus ou moins optimiste. On a entendu la contribution de la Pologne, où on travaille sur une nouvelle législation régissant les médias. Eux aussi ont utilisé cette déclaration. Aux Pays-Bas, un texte est en préparation. Aux États-Unis, on utilise également référence à cette déclaration. En Suède, en Irlande, en Italie, en Espagne, partout, cette déclaration est utilisée, notamment dans les environnements, dans les gouvernements, pour permettre la rédaction régissant les médias communautaires. Et c'est au cours de conférences ou de journées d'études comme celle-ci qu'on en discute, qu'on en rediscute. Et je crois qu'il faut pouvoir justement dire à propos de ces textes qu'ils sont importants, notamment la déclaration des ministres de la Culture à Reykjavik il y a 4 ans, parce que vos ministres de la Culture ont signé ces déclarations. Et si vous avez souci par rapport aux médias communautaires ou à la réglementation de ces médias communautaires dans votre pays, vous pouvez toujours aller chez votre ministre en disant « Vous avez signé cette déclaration il y a 4 ans à Reykjavik ». L'idée, c'est également d'attirer l'attention de vos autorités de régulation sur ces déclarations. Alors bien sûr, ces déclarations, non, ou cette déclaration n'a peut-être pas de force de loi ou de force contraignante. Non, il n'empêche que les ministres ont signé ces déclarations et je crois qu'il est important de leur rappeler leurs obligations dans ce cadre-là. Et puis vous avez tout un travail qui est fait au niveau européen en matière de radio communautaire inspiré par ces deux textes. Alors l'évolution, c'est la numérisation bien sûr, mais l'apparition des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google, dans la présentation de mon collègue britannique, de mon collègue hollandais, il nous a montré qu'aux Pays-Bas, on utilise déjà ces réseaux. On le fait de manière extensive et l'idée est vraiment de favoriser des échanges entre ces différentes technologies et de les utiliser de concert. Les réseaux sociaux sont-ils si sociaux? Je crois que les médias communautaires sont plus sociaux que les réseaux sociaux. Je crois que ces réseaux sociaux, finalement, on les surestime. Je crois que justement ces réseaux sociaux sont évités pour éviter tout contact social. Tout contact social, on est derrière son écran, derrière son ordinateur, on envoie un SMS, mais on appelle amis, on a évidemment toujours beaucoup d'amis sur Facebook. Sont-ils vraiment de vrais amis? Je crois que ces réseaux sociaux finalement sont bien moins sociaux dans leur nature que ces radios communautaires. Certains vont même jusqu'à dire que les réseaux sociaux font de nous des êtres encore moins sociaux et diminuent justement les possibilités de contact personnel. La transition numérique, je pense qu'elle est liée, quand on parle de médias communautaires, je pense que c'est lié au droit à l'information. Quand on pense notamment à la Convention de l'UNESCO sur les droits de l'homme, je crois que c'est très important justement de se souvenir du fait qu'on a le droit de pouvoir partager des informations, des idées. L'idée n'est pas de recevoir, mais également, et c'est ce qu'on oublie dans la discussion, on a un droit actif à l'information, à la diffusion d'idées. Je crois que c'est extrêmement important de se souvenir de cet aspect-là de la déclaration. L'idée est également de participer à l'évolution de l'environnement numérique. Le numérique est inévitable, c'est déjà là pour la télévision. On a abandonné les méthodes analogues. Le câble utilise déjà la télévision numérique. Donc, je dirais, le passage au numérique est tout à fait inévitable, ce n'est pas cher, notamment si vous laissez le soin aux radiodiffuseurs nationaux de le faire. Vous pouvez construire votre propre émetteur, ce n'est pas si cher que ça et ce n'est pas aussi compliqué que cela. La même chose vaut également pour les radios communautaires, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. La FM ne va pas ne va pas disparaître aussi rapidement. La Norvège avait fixé une date, la Suède y a pensé aussi, mais il n'y a pas encore en fait de passage de la FM à la numérisation obligatoire. Et vous avez maintenant le DAB+. La plupart d'entre vous connaissez le terme, mais ce n'est pas forcément du DAB+. Il y a plusieurs systèmes qui coexistent et qui conviennent peut-être mieux aux médias communautaires. En fait, les institutions comme l'Union internationale des télécommunications, mais la plupart, ou l'UER, reconnaissent également le DAB qui fait partie des radios numériques et qui se développe très rapidement. On a maintenant des expériences en France, en Norvège, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Écosse à ce propos, et qui est utilisé maintenant en Inde avec une proposition de DRM pour l'AFM notamment. Ça permet une transition douce de l'analogue au numérique. Donc je crois que on ne doit pas avoir peur de ces autorisations et on doit pousser notre régulateur, le régulateur, à intégrer des techniques qui sont bonnes également pour nos secteurs plutôt que simplement les empêcher. L'autorisation donc devrait rendre les possibilités plus nombreuses et non pas moindres.
Justement, je voudrais revenir un instant sur cette notion de norme. Je pense que, d'un point de vue de l'utilisateur, la norme n'a absolument aucune importance. Je pense que les gens n'ont absolument aucun souci de savoir si c'est diffusé en DAB+, en DRM+, en DRM, en FM. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une diversité, une pluralité d'offres, ce que la bande FM ne nous permet plus complètement. Moi, pour travailler très très régulièrement sur l'amélioration du plan FM 2008 en communauté française, je vois bien que les possibilités sont extrêmement limitées d'améliorer les choses et que surtout on n'a plus du tout de capacité pour proposer des nouveaux services. Et justement, on n'a aucune réponse non plus à la frustration des radios locales, qu'elles soient associatives ou non, sur la petitesse de leur zone de couverture et dès lors aussi de leur question de survie, parce que qui veut faire de la radio pour 3 personnes? Donc la question de la numérisation, elle se pose là, elle ne se pose pas en termes de croissance ou, enfin en tout cas du point de vue, je pense, du régulateur, elle ne se pose pas en termes de croissance, elle se pose en termes de pluralité, diversité de l'offre. Je pense aussi que le plan FM, jusqu'ici, que ce soit un peu partout dans le monde, n'a pas été particulièrement favorable aux acteurs du troisième secteur et que c'est peut-être le numérique l'occasion de rétablir un petit peu les choses. Le problème du DRM+, à l'heure actuelle, même si la norme est excellente, c'est qu'il n'y a pas de récepteurs disponibles sur le marché. Il y a déjà assez peu de récepteurs DAB+, mais avec le développement du DAB+, en Suisse ou en Allemagne, on a quand même déjà une gamme, mais en revanche, des récepteurs DRM+, on n'en a pas encore, ou en tout cas, pas que je sache. You have seen one. Wow. How much was it?
Et ça coûtait combien?
From pre-production. Yeah.
30 euros en pré-série?